Touristica, cher public, nous avons aujourd'hui donc deux hôtes de grande qualité. Nous avons Madame Cayolle qui viendra nous parler des mouvements de mobilisation citoyenne et notre collègue Giorgio Clarotti qui s'est impliqué dans les initiatives récentes pour l'espace public européen et la citoyenneté européenne également. Le sujet d'aujourd'hui, c'est bien cela. Sachant que la Commission européenne a envoyé des signaux de mobilisation forts avec la mise à jour du règlement Initiative citoyenne et la révision des modes de financement des partis politiques. Donc l'Europe, lentement mais sûrement, se met en ordre de marche en vue du milieu donc des élections au Parlement européen en mai 2019. Est-ce que donc Madame Cayolle, vous pourriez un peu nous expliquer ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui nous a montré la direction pour impliquer les citoyens dans un espace public réellement vivant. Et je pense à une période assez remarquable qui était les années 80. Nous avions un personnage très actif au Parlement européen, Monsieur Spinelli, qui d'ailleurs a donné un nom à un groupe d'eurodéputés très actifs également aujourd'hui. Nous avions un président français très très pro-européen. Qu'est-ce qui s'est passé dans et puis des étudiants qui étaient mobilisables. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pourriez nous rappeler?
Oui, alors déjà, je vais préciser, donc je suis comme présidente de l'association des amis de Franck Biancheri, et en fait, Franck Biancheri est un personnage important de l'histoire politique et citoyenne récente de l'Europe, qui est malheureusement décédé en 2012, après avoir été actif, donc activiste d'une Europe citoyenne et politique sur un objectif de démocratisation de l'Europe pendant 30 ans à peu près. Et donc nous, aujourd'hui, il a bien évidemment croisé et entraîné énormément de monde dans son sillage d'activité pendant ces 30 ans, et moi-même j'étais sa compagne pendant 20 ans, donc nous avons, moi et d'autres compagnons de route, créer une association de ses amis pour essayer de continuer le travail et de faire connaître ce travail aussi, parce que finalement, à la fois, il a fait énormément de choses qui ont été connues dans des tas de milieux, mais jamais finalement très publiquement. On estime qu'aujourd'hui, dans l'état de l'Europe actuelle et de la crise de transition vers justement une Europe plus démocratique, plus citoyenne, il est important, effectivement, de connaître ce genre de figure. Je ne sais pas s'il y en a tant que ça, en réalité, tout simplement. Et j'ai un petit peu envie de dire, j'ai pensé à ça en venant, que j'ai envie d'utiliser pour la première fois une définition de Franck qui serait de dire c'est le premier homme politique européen de l'Europe, de l'histoire européenne contemporaine. On pourrait quand même vraiment l'appeler comme ça. Et effectivement, je vais vous parler donc de son grand fait d'armes, le premier, celui qui a un petit peu créé sans doute sa vocation, qui a eu lieu dans les années, effectivement, 80, où en 1980, il était étudiant à Sciences Politiques, Paris, et il a lancé donc une association d'étudiants européens. Je ne sais pas, il faudrait que je vérifie un jour, parce que je n'ai jamais vérifié, c'est la première grande association d'étudiants européens. Une chose est certaine, c'est que c'est la première association d'étudiants européens transnationale, donc sans niveau national. Donc ça a donné tout de suite une identité, un ADN très fort et très européen à cette association, qui aujourd'hui existe toujours, EG Europe, association des étudiants association des États généraux des étudiants d'Europe, qui existe toujours. Récemment. Voilà, que vous avez, oui, ça c'est bien, oui, et qui compte 13 000 étudiants. C'est un gros réseau, 200 antennes en Europe, et qui, tous les 6 mois, fait son assemblée générale en réunissant juste 800 personnes. Voilà, tous les 6 mois, il y a 800 personnes qui se réunissent dans le cadre d'une assemblée générale EG Europe. Donc voilà, c'est une grosse association. Donc c'est déjà un fait d'armes, ça, majeur, d'avoir créé cette association, mais le plus connu, enfin, on va dire, c'est le fait que 2 ans plus tard, donc on est en 86-7, ces étudiants européens entendent parler d'un programme de mobilité étudiante qui va être créé, qui a été demandé par des chefs de gouvernement, qui a été concocté par des fonctionnaires de la Commission européenne. Ils s'y intéressent, ils attendent de quand est-ce que ça va sortir, etc. Et puis, petit à petit, on leur en parle de moins en moins, ils finissent par s'en inquiéter, font leur enquête, s'aperçoivent que finalement tout est bloqué, que notamment les ministères des Finances et les ministères de l'Éducation au niveau national bloquaient finalement ce projet-là, et ils se mobilisent. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils font d'abord ils font une investigation pour essayer de comprendre d'où viennent les problèmes, de montrer eux en tant que citoyens avec toute la légitimité qu'ils avaient de citoyens étudiants européens, avec toute cette légitimité là que eux ils attendent ce genre de choses, et de faire la tournée des capitales, de la commune de Bruxelles, de tout ça pour arriver à essayer de débloquer cette histoire. Ils finissent, et c'est ça le moment très historique quand même pour des étudiants qui ont entre 20 et 25 ans, ils se retrouvent à la table de François Mitterrand dans le cadre d'un déjeuner à l'Élysée, avec d'un côté donc Franck Bianchieri, il y a une photo de ça, hein, Franck Bianchieri face à Mitterrand, entouré de son aréopage de conseillers européens, de conseillers, et Franck entouré de ses étudiants européens, pour arriver à faire comprendre à Mitterrand, qui n'en avait pas vraiment conscience, qu'il y a un problème avec ce programme, et du coup, voilà, attirer son attention et obtenir de François Mitterrand une déclaration aux médias disant « il n'est pas question qu'un programme aussi important pour l'avenir de l'Europe soit bloqué par des picadilles financières, budgétaires ». Et du coup, adoption. Et là, on a un bel exemple de collaboration entre entre des gouvernements nationaux qui, eux, voulaient, en fait, pas des gouvernements, mais des chefs d'État. Hein, Mitterrand voulait ce programme, l'institution en commune européenne, et les citoyens. Et là, quand les trois se mettent ensemble, ça devient irrésistible.
Mais au fond, c'est du lobbying. Il faut aller au contact avec les hommes politiques. C'est ça que vous dites. Y compris une
voix. Oui, tout en restant ancré dans la citoyenneté. C'est ce lien qui est important, effectivement. Le lobbying et la démocratie. Aujourd'hui, on a un système, effectivement, très accusé de mot lobby et très négatif. Une connotation très négative parce qu'il sert des intérêts particuliers. Mais le lobby des citoyens s'appelle la démocratisation.
Très bien. Et alors, si j'ai bien compris, on est cette année en train de fêter les 30 ans de ce programme Erasmus, qui est devenu un programme qui couvre toutes les dimensions, depuis les écoles, les universités, la formation professionnelle, et on célèbre, je crois qu'il y a eu récemment une interview du fondateur, celui qui avait conçu...
Leonarduzzi.
Voilà.
Avec qui ils ont beaucoup travaillé, hein. Bianchieri, Leonarduzzi, ils avaient fait la paire là-dessus.
Voilà. Et donc, ça reste actuellement un programme quand même qui est doté de 16 milliards d'euros et qui cible non seulement les étudiants, parce que l'AEGE, quelque part, c'était la crème de la crème, non? C'était la crème de la crème des étudiants, non?
À l'origine. Oui, tout à fait. Enfin, je ne sais pas si c'était la crème de la crème, mais en tout cas, c'était un réseau étudiant. Peut-être Giorgio va nous en dire deux mots, parce que... Tu y étais, je crois.
Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai connu Franck, en fait, parce que j'étais un des tout premiers boursiers d'un programme qui maintenant s'appelle Marie Sklodowska-Curie, qui est un programme de la DG Recherche. C'est l'Erasmus des doctorants, et il était déjà parti. Il est parti en 85 avec le premier programme cadre, et moi, j'ai été le 51e boursier. Maintenant, on est à plus de 100 000 boursiers. Donc, et on n'avait pas fondé d'association. Il n'y avait pas d'email à l'époque. Enfin, si les chercheurs avaient des espèces d'emails, on avait une liste où on avait les 200 premiers boursiers. Et donc, fort de cette liste, on s'était positionné pour dire les chercheurs européens existent, c'est en train de commencer. Et c'est là que j'ai eu connaissance d'AEG, qui était déjà une réalité en 87-88. Et on a milité pour Erasmus, parce que c'est clair que nous, on voyait tous les bénéfices qu'il y avait à faire un doctorat européen. Moi, je suis italien, j'ai fait mes études en Belgique. Les Belges m'ont fait du chantage pour me donner une bourse de doctorat en me disant « devenez belge ». Et moi, je dis « je suis rital et je le reste ». Mais quand j'ai été chez les Italiens, ils m'ont dit « ah oui, mais votre diplôme belge, ce serait bien que vous fassiez encore des études en Italie ». J'allais partir au Canada et c'est là que j'ai découvert le programme qui s'appelait justement « Stimulation ». Et j'étais faire mon doctorat à Montpellier, en France. Et c'est là que j'ai connu Franck et le réseau AEG, où moi j'ai suivi et j'ai profité de l'infrastructure de AEG. Pour donc faire du lobbying pour Erasmus, et deux choses intéressantes sur Erasmus, ça a commencé tout petit. La première année, il y a eu moins de 500-600 free movers. L'idée géniale de Domenico, ça a été les académies, les universités bougent pas, on va faire bouger les étudiants qui eux veulent. La commission a donné des bourses aux étudiants qui avaient une simple lettre écrite, oui je sais, pour ceux qui travaillent à la commission, ça peut étonner, d'un professeur étranger garantissant que cet examen allait être reconnu par un autre professeur. Donc, il suffisait qu'un étudiant permette à deux professeurs de s'entendre, de se parler, et que le professeur de droit international français dise « je reconnais la note que mon collègue allemand mettra », et boum, Erasmus est parti parce que l'année d'après, ils étaient 3000, et l'année d'après, ils étaient 10 000, et puis les universités se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas tout ça? Et donc Erasmus est parti comme ça. Et les budgets ont suivi, et c'est parti vraiment d'une initiative citoyenne, et la commission a exploité la volonté des étudiants de bouger pour faire exploser les blocages qui venaient des ministères de l'enseignement, qui étaient tous convaincus que leur système était le meilleur du monde. Et Franck m'a raconté que ce qu'il a dit à Mitterrand, quand Mitterrand leur a dit « Mais pourquoi est-ce que vous étudiez pas en France et vous voulez aller à l'étranger ?» Il a dit « Parce que j'ai simplement envie de tester. Et si vous bloquez, eh ben on ira aux États-Unis, on ira dans les pays qui nous permettront de tester ailleurs. » En fait, il a pas dit les États-Unis, il a dit « On ira en Angleterre. » Et ça, ça avait pas plu du tout à Mitterrand qui s'est dit « Bon, on va essayer de faire venir les Anglais ici. » C'est ce qu'il m'a raconté.
Ça a été un moteur assez puissant, ça. Je pourrais témoigner d'autre chose un peu dans ce même sens-là. Alors, donc on a ce passé, ça a continué, hein, les mobilisations d'étudiantes, le programme Erasmus est toujours vivant, la question de la reconnaissance des diplômes reste toujours essentielle d'ailleurs, elle n'est pas toujours aussi facile que ça, mais elle se fait d'emblée pour Erasmus. Et donc on a eu la CIG, les CIG dans les années 2000, des mobilisations citoyennes importantes, différents mouvements. Je pensais par exemple au Forum permanent de la société civile, mais il n'y avait pas que ça, dont j'étais personnellement. Et puis nous sommes aujourd'hui en 2019 et quelque part, on a eu un président de la Commission européenne qui a dit voilà, il faut que l'Union européenne se démocratise. Il faut donc notamment qu'on puisse participer au Parlement européen en attirant vraiment l'attention des gens, des citoyens, sur la dimension proprement européenne de ce Parlement européen. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment cette idée a été présentée et comment les réseaux citoyens peuvent préparer ce travail de sensibilisation, de mobilisation sur des échéances politiques européennes.
Oui, donc moi j'ai envie de dire, c'est vrai qu'il y a un rapport, un parallèle, un écho même important entre l'exemple d'Erasmus, hein, où là on a eu cette convergence entre les citoyens, les fonctionnaires et les chefs d'État, enfin les chefs d'État, cette dimension politique nationale, disons, et aujourd'hui ce besoin de démocratiser absolument l'Europe, il y a absolument besoin d'ancrer l'Europe dans une légitimité qui donc doit être démocratique puisqu'on est une entité qui s'est construite là-dessus, c'est vrai que aucun des acteurs seuls n'arrivera à faire bouger cet agenda-là. Il faut vraiment qu'on arrive à rentrer en convergence, effectivement. Et du coup, les citoyens doivent jouer un rôle qui n'est pas juste un rôle de mobilisation cheerleader, de type cheerleading. Hein. L'Europe démocratique, c'est donc une Europe politique. Et l'Europe politique, c'est de la citoyenneté active qui se transforme en politique. À un moment, il va falloir aussi accepter le fait que l'idée que les citoyens sont pas juste des gens qui agitent des petits drapeaux des drapeaux rouges ou des drapeaux bleus, mais que ce sont des gens qui à un moment, doivent rentrer dans le débat, accéder à des outils de compréhension des enjeux au niveau européen. Ils en sont très loin actuellement parce que les citoyens sont beaucoup enfermés dans des systèmes d'information nationaux. Donc ils ont du mal à effectivement prendre conscience, même si effectivement l'info est devenue depuis 10 ans extrêmement européenne, hein, toutes les crises sont européennes. Hein. Mais c'est vrai que le regard reste un regard national, celui qu'on leur propose. Donc arriver à nourrir ces citoyens des bons regards, des bons niveaux de compréhension sur ces enjeux, les faire participer à un débat, d'où émergent des nouveaux mouvements politiques transeuropéens.
Ouais. Oui, ça c'est mon sujet un petit peu parce que je vois que les médias ont seulement la perspective nationale. Je suis maintenant un petit peu ce qu'on dit de la campagne électorale en Allemagne. Moi je suis allemand, je vis en Belgique. Je vois que je n'apprends rien du tout sur cette campagne électorale en Belgique.
Je dois suivre
les médias allemands pour, et là je me demande qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette situation. D'abord il faut des ambassadeurs comme des étudiants Erasmus qui connaissent ce pays, qui comprennent la langue, et puis moi je mettrai l'accent. Il y avait cette initiative de Barcelone, langue maternelle plus 2. À mon avis, ça a échoué un petit peu. Les gens ont appris quelques langues, mais est-ce que ça renforce la cohésion européenne? Moi, je pense qu'il faudrait mettre l'accent sur les langues des pays voisins, surtout dans les régions transfrontalières, et dire, vous apprenez cette langue-là en premier lieu, et puis vous pouvez suivre les médias, et ça donne une communication transfrontalière. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je peux peut-être répondre à ça, parce que moi, j'ai eu la chance, ou ben, c'est tout simplement passé, c'est comme Obélix, je suis tombé dans la potion européenne étant petit. Mon père a été un des premiers fonctionnaires en 57, je suis né ici, j'étais à l'école primaire belge, mais puis j'étais à l'école européenne, et par rapport aux langues, je citerai ce que ma fille m'a dit. Ma fille sortait avec quelqu'un qui n'était pas européen, et quand ma mère me disait « Ah, mais si jamais tu te maries avec ce monsieur, ce sera difficile », elle dit « Mais comment ce sera difficile? Tu apprendras sa langue ». C'est-à-dire, pour elle et pour mon fils, apprendre une langue, c'est le béaba. Alors, ça, c'est la bulle de Bruxelles. Quand j'ai quitté Bruxelles, moi j'ai rencontré une boulangère qui est à Montpellier, ville internationale. Lorsque je suis rentré dans sa boulangerie avec mon ami allemand, et que je lui ai dit en allemand, welches Brot möchtest du, Dietmar, m'a dit, mais Giorgio, vos amis sont allemands. Je ne sers pas les Allemands. Montpellier, 1989, on est près d'aujourd'hui. Et puis j'ai découvert que c'est parce que ses parents avaient eu des problèmes pendant la guerre avec les forces d'occupation. Donc la réalité que nous devons comprendre, nous qui travaillons ici à Bruxelles, c'est que moins de 10% des Européens ont vécu ou étudié à l'étranger. Moins de 70%, 70% pour les Français, ont voyagé à l'étranger. C'est les dernières statistiques Eurostat. Donc ça veut dire que 350 millions d'Européens n'ont aucune expérience de l'Europe autre que ce qu'ils ont par les médias. Et donc la question d'une langue étrangère ne se pose même pas. Eux ne savent même pas. Pour eux, Bruxelles, c'est loin. Et donc, il y a énormément de travail à faire, et je cite cela parce que, avec Franck Biancheri et avec d'autres, en 1995, on a fondé un think tank qui s'appelait Europe 2020, où on aurait dû breveter le nom, la commission aurait dû nous payer des royalties pour son programme, qui visait à élargir le cercle des acteurs européens. Et clairement, Erasmus a servi à ça, le marché unique a servi à ça, le programme de recherche a servi à ça, Interreg a servi à ça, mais aujourd'hui, 70% des Européens n'ont qu'une perception nationale. Donc le problème des langues est capital pour, comme Franck, Conrad, comme Conrad disait, pour permettre ne fût-ce que de connaître et d'apprécier, et lorsqu'on fera éventuellement du tourisme, s'approcher de cette réalité. Moi, j'ai la chance de parler 6 langues parce que ma grand-mère était polonaise, donc j'ai une langue en plus par rapport à celle que j'ai apprise à l'école. Et c'est fantastique parce que quand je suis là, mais c'est exceptionnel.
Voilà. Alors la question, c'est quand même, nous sommes des machines sophistiquées au niveau européen. On a un service, par exemple, de traduction qui tous les jours met à disposition 23 ou 22 versions des textes législatifs, de l'information politique sur Internet, dans les langues. Donc on a quand même des moyens d'aller aussi à la rencontre des citoyens. Je pense qu'il y a un petit peu un double mouvement. Je pense que ça, les citoyens doivent faire la démarche de se mobiliser, y compris dans l'apprentissage des langues, c'est un mouvement très fondateur, s'impliquer dans les mouvements citoyens. En même temps, les acteurs européens doivent aussi s'ouvrir et comprendre les besoins de la communication politique et citoyenne au niveau européen. Et là, je vous renvoie un petit peu à 2019, aux élections européennes, avec en tête ce qui s'est passé en 2014, on avait le sentiment que on n'était pas tout à fait préparé. Il y a eu d'extrêmement bonne volonté, il y a eu des coups de force remarquables, mais la machine, les médias n'étaient absolument pas préparés. Ils croyaient s'en tirer vite fait, bien fait, avec peut-être un peu d'anglais, basta. Et puis une invisibilité des canaux de diffusion des débats politiques, par exemple ce qui se passe en ce moment en Allemagne, est un débat européen. Est-ce que cette dimension est assumée? Non. Donc on a... Autrement dit, ça reste dans la sphère allemande, ce qui est un non-sens, d'une certaine manière. Et 2019, ça va être encore pire. Si on se met pas en ordre de marche, si on ne pense pas les langues, la mise à disposition d'interprétation sur Internet, l'utilisation de la traduction automatique, la diffusion vraiment dans les langues des personnes, qu'est-ce qui va se passer ?
Oui, ça c'est tout à fait, vous avez raison, c'est un enjeu majeur de la démocratie européenne. C'est la démocratie, le concept de démocratie au niveau européen, il a ce défi-là à relever. Alors effectivement, il y a bien sûr, comme vous dites, dans les deux sens, hein, des citoyens qui doivent intégrer des langues, mais ça c'est d'abord pas tout de suite, hein, on reste effectivement avec des pourcentages de gens multilingues très faibles. Et à un moment, effectivement, les gens qui vont s'adresser, jusqu'à présent, il y avait surtout l'institution qui devait s'adresser de manière européenne, enfin voilà, à l'ensemble des Européens. Si on se met à avoir l'émergence d'une classe politique européenne qui va s'adresser aux citoyens européens, il faut qu'ils s'adressent à eux, effectivement, de manière multilingue. Et si on parle de citoyenneté ici aussi, et si effectivement on regarde tous ces mouvements citoyens européens qui se mobilisent d'une manière qui en fait doit faire émerger cette vie politique européenne, il faudrait aussi qu'effectivement la société civile, alors je ne sais pas du tout, je ne connais pas bien les lignes budgétaires, est-ce qu'il existe des budgets pour financer le multilinguisme pour la société civile ? Est-ce que c'est un des axes importants ? Parce qu'effectivement, on a besoin de médias multilingues, absolument, pour la campagne européenne de 2019, absolument. Nous, donc je vais faire peut-être aborder déjà un petit sujet. Un des sujets qu'on devait aborder ici, c'est donc le fait que nous, l'Association des Amis de Franck Bianchieri, nous avons lancé en juillet dernier à Louvain-la-Neuve un projet qui s'appelle Citizen Route 73, qui est justement un projet qui appelle cette fois-ci instamment à mobilisation citoyenne pour qu'on ait une vraie élection européenne en 2019. Donc on est sur des projets concrets de type, notamment essayer de créer une chaîne YouTube qui fasse monter des figures de la nouvelle vie émergente politique européenne. Mm-hmm. Mais tout ça va avoir besoin de traduction. Ça c'est certain, sinon on va pas y arriver, on va pas faire que de l'anglais, sinon on va parler toujours au même groupe. Donc là on a effectivement un défi linguistique et je serais tout à fait intéressée de savoir quel type d'outils peut apporter effectivement l'Europe à aussi la société civile dans cet acte de mobilisation à visée politique.
Alors, il est vrai que la Commission européenne actuellement a mis à disposition du public une espèce de mémoire de traduction. C'est sur le site du Centre commun de recherche qui reprend l'essentiel, le corpus donc de tout ce qui a été traduit. Bon, c'est un certain type de corpus, bien entendu, surtout législatif, mais elle l'a mis à disposition. Et actuellement, elle met à disposition un système de traduction automatique. Pas à ce stade pour le public. Elle a ouvert à des stakeholders, comme on dit, à des partenaires, des universités qui sont dans des réseaux partenaires et des administrations nationales. Mais ça fait partie d'outils, à la limite, qu'il faudrait rendre systématiques. J'ai eu un petit échange hier avec un forum qui s'appelle Metaforum sur l'agenda numérique, le marché unique numérique. Et alors forcément, j'ai reçu un message dans une seule langue, j'ai diffusé le message, forcément j'ai reçu des critiques, et j'ai répondu à l'organisateur, il faut peut-être faire un petit effort, au moins donner accès à un outil de traduction automatique. Parce que si vous parlez d'un marché digital, citoyen ouvert aux gens, vous devez intégrer le multilinguisme.
Moi, j'aimerais citer deux choses qui sont sorties de ce think tank Europe 2020 et qui sont vraiment totalement à propos pour ce qu'on dit. Premièrement, alors, je vais faire un peu de pub pour un média qui s'appelle Euractiv, qui est sorti de cette association Europe 2020. Christophe Leclerc, le fondateur d'Euractiv, était membre du pilotage de ce groupe. Donc, il y avait Franck, moi, Christophe et une quatrième personne. Et une des choses qu'on s'est dit, il faudrait un média multilingue. Et c'était l'année 2000 où il y avait beaucoup d'argent pour les startups. Donc Christophe Leclerc est un collègue qui est parti en CCP pour faire une startup de médias européens sur le web. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Et c'est vraiment un média multilingue qui arrive à utiliser 15 langues et qui arrive à faire voir ce que Bruxelles fait dans 15 États membres et qui arrive à faire remonter des 15 États membres ce qui est intéressant pour Bruxelles, de savoir ce qui se passe en Italie, en Roumanie, en Slovaquie. Pour moi, par exemple, l'information qui vient des pays de l'Est, c'est plutôt réactif que l'économiste. Parce que l'économiste ne voit pas bien les pays de l'Est, ni le Financial Times. La deuxième chose qui en est sortie et qui a vraiment, on parle beaucoup de 2019, c'est une campagne pour faire des listes transnationales européennes. Ça nous a fait vraiment plaisir à Marie-Hélène et à moi de voir Monsieur Macron parler à la PNIX avec l'Acropole comme derrière, parce que grâce à l'amitié de Dora Bakoyanni, qui était maire d'Athènes, la PNIX, c'est la colline qui se trouve sous l'Acropole. Donc c'est, on était à l'endroit où Macron a fait son discours il y a 10 jours. Grâce à la maire d'Athènes, on a eu accès à la PNIX.
On est tous allés là-bas, à l'Acropole. Qui n'est pas allé de nous, oui, à l'Acropole? Oui, mais
était-ce un signe du destin? Nous l'avions réservé pour nous, pour présenter 4 propositions européennes en vue des élections de 99. Et ce jour, il y a eu une tempête terrible qui a fait voler tout le matériel radio et télé qui était là, et donc on n'a pas eu notre émission télé à la télé grecque, mais on a quand même fait, on est rentré dans un truc qui avait 2000 ans, c'était pas l'Acropole, mais c'était à côté de l'Acropole, et on a fait notre assemblée là, c'était magnifique parce qu'il y avait une tempête dehors, et nos 4 idées, un c'était le média européen, l'autre c'était des listes transnationales européennes. Et j'aimerais prendre 30 secondes, je déclenchais mon chrono pour dire, voilà, il y a une campagne actuellement en cours. Je reprendrai l'image de Juncker. On a du vent dans les voiles pour des listes transnationales européennes. C'était une idée qui a au moins 20 ans. Il n'est pas normal que moi, en tant que citoyen italien à Bruxelles, pour les élections européennes, je ne puisse voter que pour un candidat italien ou Guy Verhofstadt. Et je déclare que j'ai voté pour lui les 2 dernières fois parce que j'ai choisi de voter donc sur les lignes belges. C'est normal, en tant que fédéraliste européen, Verhofstadt est un leader du groupe Spinelli et du parti fédéraliste, enfin de l'Union européenne des fédéralistes. Cette proposition de permettre à tous les Européens de voter pour une même liste et de donc forcer les partis qui pour le moment sont assemblés dans des assemblages, oui, qui ont soutenu le Spitzenkandidat, mais Madame Merkel faisait campagne pour la CDU. Elle ne faisait pas campagne pour Monsieur Juncker. D'ailleurs, je crois que c'est public. Elle ne soutenait pas Juncker. Juncker est devenu président parce qu'il a été soutenu par les élections dans d'autres pays que l'Allemagne. Et son résultat a été imposé à Merkel, qui s'est pliée assez gracieusement à cela, et à Cameron, qui n'en voulait pas. Avec un soutien du SPD, c'est clair. Schulz était derrière. Donc, Schulz a dit, moi, je soutiens Juncker parce que je reconnais le Spitzenkandidat. Bon. Cette idée a du vent dans les voiles. Citizens 73, que Marie-Hélène a mentionné, c'est parce que ce sont notre proposition, c'est que les 73 parlementaires britanniques, qu'on transforme la crise du Brexit en une fantastique opportunité pour les citoyens européens. C'est que les 73 candidats soient reversés dans un collège électoral européen et que tout le monde puisse voter pour le meilleur candidat, la meilleure liste européenne. Ça ferait exploser cette dynamique de partis qui s'assemblent au Parlement seulement quand ça leur intéresse, parce que, parlons vraiment très franchement, la CDU va être forcée de soit de faire une liste avec Fidesz et Forza Italia, et donc de se faire attaquer par les socialistes qui disent « Ah, attention, si vous votez CDU, vous votez pas Merkel, vous votez aussi Orban et Berlusconi. » Ou alors de ne pas s'associer avec ces partis et de risquer de perdre les votes des Italiens et des Hongrois. Donc cette proposition, on l'a mise sur la table lors des élections des présidents du Parlement européen, parce que l'initiative sur la loi électorale est du ressort du Parlement. 4 des 7 candidats nous ont dit oui, pas Monsieur Tajani, qui ne nous a pas répondu, mais c'est maintenant revenu sur la table de la commission Affaires constitutionnelles du Parlement, qui en débat. Le Parlement doit faire sa proposition, et à l'initiative italienne et française, maintenant, la proposition a un peu changé. 22 des 73 iraient à une redistribution entre États, mais 51 candidats, c'est l'opposition officielle française et italienne, devraient rentrer dans un collège électoral européen. Alors après la proposition du Parlement, il faut un vote unanime du Conseil, c'est pas gagné, c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde, et que Marie-Hélène est là avec les citoyens pour arriver à faire bouger les lignes. Nous parlions mercredi passé avec Monsieur Pittel, qui est le chef de groupe des socialistes, qui nous soutient et qui dit être confiant de pouvoir faire bouger des lignes. Eh bien, le commentaire, c'était parce que un membre du PPE, Monsieur Juncker, s'est exprimé publiquement pour ces listes transnationales européennes. Donc, on a déjà au moins un PPE qui a été contre la position officielle du PPE telle qu'elle exprimée, voilà, et pas des moindres.
Donc, que vont faire les citoyens? Peut-être on va céder, et pour finir, peut-être donner le dernier mot à Marie-Hélène. Que peuvent faire les citoyens?
On a encore 8 minutes.
Ouais, très très court. Agenda, justement, nous avons quelques idées clés, soutenues par la Commission européenne, soutenues par des personnalités, Macron, l'ETA, etc. Donc, que peut faire la société civile européenne pour mettre la pression sur les décideurs, notamment au niveau intergouvernemental? Quelle est la feuille de route?
Nous, avec Citizen Road 73, en fait, la manière la plus simple qui a de résumer l'objectif, c'est en fait de faire en sorte qu'on ait une campagne européenne qui commence aujourd'hui, en gros, parce qu'on peut pas se payer le luxe aujourd'hui, vu l'état global et l'état de l'Europe dans cette globalité, on peut pas se payer le luxe d'avoir une élection 2019 avec une semaine de campagne, c'est juste pas possible. Et que donc, c'est vraiment dans cette logique-là qu'on est en train de se positionner.
Anticiper,
et puis voilà. Commencer à créer les outils. On parle de tribunes, nous. En fait, nous, je voulais juste une mention importante. On parlait d'histoire au début. Franck Biancheri, il a créé les deux premiers partis politiques transeuropéens historiques. Donc, il le savait que c'était la liste transeuropéenne qui était la solution pour la démocratisation. Il a créé IDE, Initiative pour une démocratie européenne, en 1989, dans la période, justement, où il était étudiant. Et il a créé New Europeans en 2005, qui a présenté des listes aussi en 2008. À chaque fois, il a présenté des listes, réellement. Bah, avec 0, je sais pas combien de pourcents de résultats, présenté quand même liste commune, programme commun. Aujourd'hui, nous, on est arrivé, on n'a plus Franck. On s'est posé la question, est-ce que nous, héritiers de Franck, on allait essayer de refaire un parti politique? Et nous, en tant qu'héritiers de Franck, ça ne veut pas dire qu'individuellement, on ne va pas avoir des choix différents en personnel, mais individuellement, on se dit, en fait, aujourd'hui, la meilleure traduction du projet de Franck, c'est de dire contribuer à l'émergence de partis politiques transeuropéens au pluriel. Et du coup, on se positionne maintenant sur une logique de, on est une tribune. On va essayer de créer des outils citoyens européens, voilà, transeuropéens, pour pallier les déficiences du système national d'information et de, voilà, démocratique, pour essayer de faire émerger, de faire connaître. On parlait de médias tout à l'heure. Les médias, ils ont un défi, les médias transeuropéens ont un défi linguistique, mais ils ont un autre défi. C'est de s'humaniser. Actuellement, on a des médias transeuropéens qui parlent des directives de la Commission européenne, de trucs vraiment ennuyeux au dernier degré. Du coup, personne ne les écoute au-delà des cercles de très européens. Il faut faire monter des visages, des gens qui disent des choses, des gens qui ont des idées, des gens qui critiquent, des gens qui proposent des solutions. Toute cette vie politique qui commence à bouillonner, et les médias transeuropéens ou nationaux, je ne sais pas comment ils peuvent arriver à s'organiser de manière transeuropéenne, peut-être aussi, il y a peut-être moyen de créer des dynamiques, peut-être de transeuropéanisation du débat. Et nous, les citoyens, on va essayer de faire avec la Citizen Route 73, via, par exemple, on a un projet de marathon. Donc là, c'est des tribunes physiques où on voudrait mettre des représentants de mouvances politiques diverses en train de confronter leurs idées devant des publics qui vont tourner. Désormais, on va suggérer à des organisations d'accueillir cette tribune-là, et donc de faire un marathon pendant une année. Un média, j'ai parlé d'une chaîne YouTube, par exemple, avec une dimension justement visuelle pour rendre concret tous ces visages politiques de l'Europe émergente. Voilà, on a d'autres idées et effectivement des actions de lobbying pour clairement que dans les capitales et à Bruxelles et dans les capitales européennes, ça se sache que les citoyens, bah, c'est ce qu'ils veulent, quoi, qu'ils en ont assez, comme je disais tout à l'heure, des référendums, des questions oui-non ou des questions européennes posées au niveau national. Non, aujourd'hui, il est temps d'avoir des questions ouvertes qui nous soient posées à nous, citoyens européens, sur les enjeux européens. Et là, on va commencer à pouvoir donner de bonnes réponses et reconstruire le lien et la confiance entre les institutions et les citoyens.
Bon, si je comprends bien, il s'agit juste de mettre en œuvre le traité de Lisbonne, la démocratie européenne. C'est dans le traité, mais c'est encore en devenir. Donc, il y a encore du travail. Je pense qu'on va...
Oui, on est presque au terme de notre émission, mais je voulais appuyer tout ce qu'on avait dit jusqu'à présent. J'ai entendu il y a quelques semaines un journaliste de la télévision allemande qui avait été longtemps à Bruxelles, et je lui ai posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne voit que de politiciens allemands quand vous faites des interviews ici à Bruxelles sur des questions européennes? Il a dit, j'essaie toujours de trouver aussi des hommes politiques d'autres pays, mais dès qu'ils apprennent, c'est un journaliste d'un autre pays, ils perdent tout à fait l'intérêt, ils ne veulent pas parler, et ça doit changer, évidemment, et je crois, évidemment, les listes transeuropéennes, c'est un premier pas.
Casser les silos.
Tout à fait.
Bon.
Tout à fait, merci beaucoup.
Merci beaucoup à Marie-Hélène et à Giorgio d'être venus jusque chez nous. Merci à Conrad de nous avoir prêté son antenne pour parler de questions linguistiques et citoyennes et démocratiques. À bientôt.
C'est tout est ensemble.
Voilà, tout va ensemble. Bonne semaine à vous. Au revoir.
Merci beaucoup. Merci Conrad. Merci.